Donc aujourd'hui, nous allons partir d'un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Et j'ai intitulé donc ce message « C'est l'esprit qui fait vivre et qui transforme ». Alors nous lisons ce texte, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ? Ou bien aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ? Ou encore de vous? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ confiée à notre ministère. Une lettre écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu. Non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, comment le ministère de l'Esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison? Si le ministère de la condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison, le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Et sous ce rapport, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, à bien plus forte raison ce qui demeure est-il entouré de gloire. Ayant donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leur intelligence est devenue obtuse. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'ancienne alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Voilà, jusque-là, la lecture des Écritures, donc tout ce chapitre 3, j'ai tenu à lire l'ensemble de ce chapitre parce que il y a une homogénéité dans ce texte, et les deux points qui me semblent ressortir de ce texte sont les suivants. Le premier point, c'est qu'on voit dans ce texte qu'il y a une unité entre l'Esprit de Dieu et Jésus, la personne de Jésus et le Saint-Esprit. Alors cette unité, elle a pour vocation de nous montrer que l'Esprit de Dieu agit toujours en conformité avec l'enseignement de Jésus. Dans ce passage, effectivement, on voit sept fois la mention de l'Esprit et de même sept fois la mention de Christ Seigneur, même huit fois si on y rajoute l'expression « l'Esprit du Seigneur » au verset 17. Il y a donc une parfaite unité entre ces deux personnes, l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint n'est pas une puissance, l'Esprit Saint est une personne, la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint ne fait rien qui puisse être en contradiction avec ce qui a été accompli par Jésus dans son œuvre de salut. Il y a une continuité. Rien de ce que l'Esprit enseigne à l'Église aujourd'hui ne peut être en désaccord avec l'enseignement de Jésus, au point que l'Esprit ne parlera pas en son propre nom, comme nous le dit l'apôtre Jean au chapitre 16, versets 13 à 15. « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire. » Quelle gloire ? Bien la gloire de Jésus-Christ. Il y a donc vraiment une unité entre le Saint-Esprit et la personne de Jésus. L'Esprit Saint révèle la gloire de Jésus parce qu'il reçoit de ce qui est à Jésus et qu'il l'annonce. C'est ce que dit Jean dans ce texte de Jean 16, 13 à 15. D'où le verset 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Identité d'action entre Jésus et son Esprit. Jésus, sur terre, libérait les captifs, il guérissait les malades, il proclamait l'évangile du royaume, il annonçait le pardon de Dieu dans sa personne. Jésus, donc, amenait la vérité de la même façon que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui libère aujourd'hui les captifs, qui renvoie libres les opprimés. C'est pour cela que de même que là où est l'Esprit du Seigneur, le même souffle de libération est présent quand Jésus parlait, enseignait, guérissait. Et cela est encore confirmé dans notre texte au verset 18. « Nous tous qui le visage dévoilé contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Donc ça, c'est le premier point, cette unité entre la personne du Saint-Esprit et celle de Jésus. L'application que nous pouvons faire de ce premier point, c'est que si Jésus n'est plus avec nous, nous ne sommes pas orphelins, nous avons l'Esprit Saint. Finalement, l'Esprit Saint, c'est Jésus pour nous. Et c'est ce que nous dit le verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Dans les moments de doute, donc, nous pouvons être assurés que par le Saint-Esprit, Jésus est à nos côtés. Quand nous avons peur, que nous nous sentons seuls, l'Esprit de Christ est là, présent. Il est là pour nous rassurer. Quand nous sommes dans la confusion et que des questions se présentent à nous sans réponse, l'Esprit de vérité est là pour nous guider dans sa volonté, dans la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le premier point, l'unité entre la personne de l'Esprit et celle de Jésus-Christ. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, et ça me semble être le point le plus important de ce chapitre 3, c'est l'opposition entre la lettre et l'Esprit qui est soulignée dans ce chapitre, notamment avec la fin du verset 6. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors là, il faut donner une explication pour ne pas tomber dans la confusion, comme s'il y avait deux paroles, une parole de la loi de l'Ancien Testament qui serait contraire finalement à la parole de l'esprit. Donc ce n'est pas de cela que ce texte nous parle. Ce que souligne cette opposition entre la lettre, ce que l'apôtre Paul appelle là la lettre, et l'esprit, ce que souligne donc cette opposition, c'est la supériorité de la nouvelle alliance en Jésus-Christ sur l'ancienne alliance. C'est pour cela que dans ce texte, l'apôtre Paul emploie des images particulières, notamment l'idée que la lettre ancienne, donc de l'ancienne alliance, la loi mosaïque, était écrite sur des tables de pierre, alors que l'évangile est écrit sur nos cœurs. La bonne nouvelle du pardon de nos péchés, la bonne nouvelle que dans la venue de Jésus-Christ, le royaume de Dieu est venu, le pardon des péchés est proclamé, eh bien cette bonne nouvelle est écrite dans des cœurs et non sur des tables de pierre. Donc tout cela, ces images-là sont là pour nous montrer la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Et le deuxième point que souligne cette opposition entre la lettre et l'esprit, c'est que les promesses et les privilèges de la vie chrétienne dans le cadre de la nouvelle alliance sont extraordinairement plus grands que ceux de l'ancienne alliance. Dans les versets 2 et 3, on voit que les chrétiens que Paul a conduits à la conversion sont une lettre du Christ écrite avec l'Esprit de Dieu, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, c'est-à-dire sur des cœurs. Dans la Nouvelle Alliance, effectivement, la Nouvelle Alliance en Christ, Dieu touche des hommes et des femmes par son Esprit, quelle que soit leur appartenance sociale, religieuse, ethnique. Il les transforme de l'intérieur, il change leur cœur. Ceux qui vivent dans l'Évangile de la grâce ont un cœur circoncis afin d'accomplir la volonté de Dieu. La loi, elle est écrite désormais dans leur cœur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les anime et qui leur apporte cette parole. Cette parole n'est plus extérieure à eux. Elle ne s'exprime pas par des sacrifices hors de nous, mais elle s'exprime, cette parole qui est dans nos cœurs, cet esprit qui est dans nos cœurs, elle s'exprime par un amour pour le Seigneur, un zèle pour sa parole aussi, un zèle pour l'Évangile. Donc dans la nouvelle alliance en Christ, Dieu touche des hommes et des femmes par son esprit, au-delà de toute appartenance ethnique, ce qui n'était pas le cas avec la loi mosaïque. Et puis au verset 6, on voit au début du verset 6 que Paul dit qu'il est ministre, l'apôtre Paul dit qu'il est ministre, c'est-à-dire qu'il est au service d'une alliance nouvelle qui est celle de l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit Saint, et qu'il n'est pas au service de la lettre. Et donc, il montre par là qu'il y a une opposition entre l'ancienne alliance, qu'il appelle la lettre, et la nouvelle alliance, qu'il nomme l'esprit. Donc, très important de comprendre que là, le mot lettre désigne en fait l'ancienne alliance et toutes les dispositions liées à cette ancienne alliance, et que le mot esprit désigne pas simplement la personne du Saint-Esprit, mais toutes les dispositions et les privilèges relatifs à la nouvelle alliance que l'apôtre Paul nomme l'Esprit. Et au verset, à la fin du verset 6, du coup, Paul dit, il en arrive à cette affirmation assez étonnante, que la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Alors, on comprend mieux, par rapport à ce que je viens de dire auparavant, que cette lettre, bien sûr, c'est cette loi qui ne fait que montrer à l'homme qu'il ne peut l'accomplir et donc qu'il est pécheur devant Dieu. Il est dans l'incapacité d'obéir à Dieu, il est dans l'incapacité d'accomplir sa volonté et que c'est seulement par l'action de l'Esprit Saint qui révèle en nous notre cœur pécheur et qui nous révèle le pardon parfait que Dieu a accompli en Christ que nous pouvons vivre et être au bénéfice des dispositions de la nouvelle alliance. C'est donc l'Esprit Saint qui nous fait vivre et c'est lui qui nous introduit dans les dispositions et les promesses de cette nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. Donc attention de ne pas faire dire au texte de ce verset 6 ce qu'il ne dit pas. La lettre tue mais l'Esprit fait vivre ne veut pas dire que l'Esprit serait opposé ou en contradiction avec les Écritures, ou une opposition entre une lecture littérale et une lecture allégorique qu'il faudrait avoir dans tout le texte biblique. Les versets 7 à 11 nous disent que le ministère de la mort est opposé au ministère de l'Esprit. Encore une fois, il faut le mettre en parallèle avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la loi n'avait pas la puissance de donner la vie, puisqu'elle était donnée pour nous montrer que nous ne pouvions que nous jeter dans les bras miséricordieux de Dieu pour recevoir son pardon et la vie éternelle. Et en ce sens-là, effectivement, le ministère de l'ancienne alliance était un ministère de la condamnation opposé au ministère de la justice, verset 11. C'est-à-dire que cette justice-là, nous ne pouvons, la justice du Christ qui nous couvre d'un manteau de pardon qui nous agrège en tant qu'enfant de Dieu au peuple de Dieu, ce manteau de justice nous le recevons du Christ qui est celui et celui seul qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu pour que nous puissions à notre tour la vivre. Paul met en avant donc la gloire bien plus grande qui est attachée à l'œuvre de l'Esprit dans la nouvelle alliance. C'est pour cela qu'il dit que si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, était entouré de gloire, comment le ministère de l'Esprit, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, ne sera-t-il pas, à plus forte raison, glorieux ? Si le ministère de la condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison, le ministère de la justice abonde-t-il en gloire ? Si ce qui était passager a été marqué par la gloire, bien plus forte raison, ce qui demeure, l'évangile éternel, est-il entouré de gloire ? Le voile sur le visage de Moïse, quand il sortait de la tente de la présence de Dieu, rayonnait Moïse était obligé de mettre ce voile tellement quand il était dans la présence de Dieu, parce qu'il était d'ailleurs dans la présence de Dieu, il était rempli de sa gloire, et bien quand il sortit, il était obligé de mettre ce voile parce que les Israélites ne pouvaient contempler cette gloire-là. Cette gloire était trop forte, elle ne pouvait être partagée à tous les Israélites, mais depuis la venue de Jésus et l'action du Saint-Esprit depuis la Pentecôte, tous les croyants reçoivent l'Esprit de Dieu et peuvent vivre de la gloire de l'Évangile et contempler, comme le dit la fin de notre texte, contempler le Seigneur et être transformé de gloire en gloire. Désormais, chacun peut expérimenter la présence de Dieu. Comme le dit Pierre dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 14, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous, pas uniquement sur quelques-uns, comme Moïse a pu être revêtu de cette gloire, puisque son visage rayonnait. Sur tous, vos fils et vos filles parleront de la part de Dieu. » À cause de l'œuvre de Jésus, l'Esprit donc, est répandu sur tous ceux qui croient en lui. Désormais, tous les chrétiens qui vivent de son esprit parlent en qualité de prophètes, puisqu'ils ont l'esprit de Dieu. Ils sont les porte-paroles de Dieu pour témoigner de la puissance de l'évangile qui transforme les vies. Cette liberté et cette puissance dans le témoignage éclatent au verset 12 de notre texte. « Ayant donc une telle espérance, nous montrons d'autant plus d'assurance. » À l'opposé de ces compatriotes israélites qui ont toujours un voile sur le visage qui ne leur permet pas de voir Jésus, Paul exprime donc sa joie immense devant la gloire manifestée au travers de l'œuvre de Jésus et de son esprit. Si ce voile demeure chez certains et qu'ils ne peuvent voir cette gloire, c'est parce que leur aveuglement ne peut prendre fin que dans le Christ qui lui seul peut ôter ce voile spirituel. C'est lui et lui seul qui peut nous donner cette espérance et cette assurance. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce, parce que c'est là que nous obtiendrons le pardon, c'est là que nous y trouverons la grâce, c'est là que nous trouverons le secours au moment opportun. Par la venue de Jésus, ce qui semblait dans l'ancienne alliance glorieux bien devient pâle, finalement, en rapport avec les promesses attachées à l'Évangile. L'apôtre Paul ne minimise pas ni n'invalide pas la loi, mais il la compare aux dispositions glorieuses de la Nouvelle Alliance, aux promesses extraordinaires de la Nouvelle Alliance, et à ce titre-là, effectivement, eh bien, cette gloire pâlit. L'œuvre de Jésus nous révèle l'étendue glorieuse de l'action de l'Esprit dans la vie du croyant. Est-ce que nous réalisons l'immense privilège d'être au bénéfice du ministère de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous avons conscience des avantages spirituels que nous avons de pouvoir vivre sous les dispositions glorieuses de cette nouvelle alliance? Donc l'application que nous pouvons faire déjà de ce point, c'est que nous devons être disposés à laisser l'Esprit de Dieu travailler notre cœur, afin d'être, comme le dit ce texte-là, une lettre de Christ connue et lue de tous, afin que, eh bien, nos compatriotes, les personnes que nous rencontrons chaque jour puissent voir, en lisant cette lettre, eh bien, voir la gloire du Seigneur comme Moïse lui-même rayonnait de la présence de Dieu, eh bien, qu'il puisse, puisque maintenant le voile est ôté, que nous puissions exprimer et simplement laisser rayonner cette gloire du Seigneur au travers de nos vies, par notre témoignage. En conclusion, revenons sur la fin de notre chapitre, versets 17 et 18. « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Ce texte nous parle de liberté, mais de quelle liberté s'agit-il? Bien sûr, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Si nous avons été libérés de l'esclavage, du péché, du mal, ce n'est pas, bien sûr, pour revenir à ce qui nous tenait asservis. La liberté de l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté à l'égard de la loi qui nous condamnait et qui nous maintenait dans un asservissement continuel. Cette loi inscrite aussi dans notre conscience et qui nous tourmentait chaque jour. Nous pouvons désormais, en Christ et par son Esprit, être pleinement libérés de tout ce qui nous tourmente si nous venons à lui pour recevoir son pardon, pour recevoir sa paix. Alors nous sommes effectivement libérés du pouvoir du péché qui nous maintenait captifs dans nos passions. Nous vivons du coup du pardon accordé par Jésus à la croix. C'est donc la liberté de pouvoir accéder à la présence du Père. C'est la liberté de vivre de sa grâce. Par Jésus, oui, nous avons accès, tous les uns et les autres auprès du Père dans un même esprit. Cette liberté nous fait entrer dans la maison de Dieu, dans sa présence. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes ceux que le Père reçoit dans sa présence. Nous sommes considérés comme ses enfants. Nous ne sommes plus asservis aux mensonges de l'ennemi, aux mensonges du diable, aux accusations de l'ennemi. Cette liberté, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous l'a fait vivre au travers de la vie de Jésus. Il change, il chamboule nos vies, il la transforme. Comment le fait-il? Eh bien, simplement, après avoir enlevé notre voile d'aveuglement, l'Esprit de Dieu nous fait contempler dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les Écritures. Il nous fait contempler comme dans un miroir l'image parfaite de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Il nous le révèle, l'Esprit Saint nous révèle Jésus qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui, il est celui qui est avant toute chose et c'est lui qui nous rend eh bien, ce privilège de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, eh bien, désormais nous prenons conscience du privilège immense de vivre une relation de proximité avec Dieu, comme Moïse qui parlait de cœur à cœur avec Dieu dans l'attente de sa présence. Maintenant que le voile est ôté, nous sommes des enfants de lumière. La vérité rayonne sur notre visage, comme elle rayonnait sur le visage de Moïse. La fréquentation de la présence de Dieu, c'est-à-dire notre cheminement avec son esprit au quotidien, nous transforme de gloire en gloire. Son esprit a ôté le voile spirituel. Maintenant, nous avons du recul par rapport à notre vie passée. Nous y voyons clair. Nos yeux sont dessillés, nous discernons les enjeux spirituels pour nos propres vies, pour nos familles, puis plus largement pour notre prochain. Désormais, nous pouvons vivre notre vocation d'être sel et lumière du monde. Nous contemplons Dieu, pas juste pour notre plaisir personnel, mais nous nous contemplons aussi parce que nous pouvons en faire profiter les autres. Finalement, nous devenons nous aussi des porte-paroles de Dieu, des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de la bonne nouvelle. Nous sommes sa voix sur terre. Oui, sur mes serviteurs, hommes et femmes, Dieu répand de son esprit. Et c'est pour cela que nous pouvons parler en son propre nom, en toute humilité, bien sûr. Nous ne sommes pas transformés de gloire en gloire pour notre seul plaisir, mais nous aussi, comme Moïse, nous sortons de l'attente de la présence de Dieu pour refléter au dehors la lumière de vérité qui nous habite. Le théologien Dietrich Bonhoeffer a dit ceci, « Le cadre de la vie du chrétien n'est pas la solitude d'un cloître, mais le camp même des ennemis, c'est là qu'il a sa tâche, c'est là qu'il a son travail. » Alors, je voudrais terminer ce message par ces quelques questions, ces défis finalement spirituels. Est-ce que nous avons conscience que par la présence de l'Esprit de Jésus en nous, nous sommes engagés dans un processus de changement permanent. Le texte nous dit que par son esprit, nous sommes transformés de gloire en gloire. D'où viennent donc nos craintes et nos résistances pour accueillir ces changements de vie dans lesquels l'Esprit de Dieu veut nous conduire? L'image que nous avons de nous-mêmes, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne doit pas entrer en compte avec l'image glorieuse de Jésus, reflétée par son esprit dans notre vie. En conséquence, l'estime de nous-mêmes, même si elle est déficiente, ne doit avoir aucune influence sur la perception, sur la perception de l'image de Jésus dans notre vie. Nous sommes transformés. Je suis transformé en son image de gloire en gloire. Tu peux le dire maintenant. Je suis transformé en son image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit dans ma vie. La vérité doit prendre le pas sur ton ressenti. Tu es transformé en son image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. La vérité de ce que Jésus est, la vérité de son Esprit imprime en toi son image. Et c'est cette image qui doit prendre le pas sur ce que les autres pensent de toi ou de l'image que tu crois leur transmettre. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen.